Studio Tamani, voici les informations en français.
Vendredi 3 novembre, merci d'écouter Studio Tamani, il est 8h à Bamako. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici la matinale. Plus de 320 millions d'irrégularités financières dans la distribution des tracteurs subventionnés par l'État en 2021-2022. La révélation est faite par le Bureau du vérificateur général dans un rapport publié ce 31 octobre. L'armée malienne a surmené ses opérations dans le respect des droits de l'homme. Une information donnée hier par la direction de l'information et des relations publiques de l'armée lors d'un point de presse. La problématique de la retraite au Mali est au cœur d'un forum qui a débuté hier à Bamako. Participent à cette rencontre de deux jours les retraités, les responsables des caisses d'assurance et des autorités. À la présentation, Sekou Gadjigo, mise en nom de Nuhum Djiré, une autre affaire de malversation et de corruption. Plus de 320 millions de francs CFA, c'est le montant des irrégularités financières décelées dans la distribution des tracteurs subventionnés par l'État en 2021-2022. C'est un rapport du Bureau du vérificateur général rendu public le 31 octobre dernier qui le révèle. Ces enquêtes se sont déroulées du 11 mai au 23 août 2023. Le Bureau du Végal annonce que les faits ont été déjà dénoncés auprès des juridictions spécialisées dans la lutte contre la corruption. Juliette Koulibaly.
Les travaux de vérification ont porté entre autres sur les dossiers de réception des tracteurs, la distribution et l'encaissement des montants dus par chacun des bénéficiaires. Au total, 225 tracteurs ont été distribués, dont 115 tracteurs de 60 chevaux vapeur et 110 de 50 chevaux. Selon le rapport, l'État a préfinancé la totalité de la subvention à travers deux contrats publics pour un montant de plus de 4 108 749 946 francs CFA en maintenant sa subvention à 50% au profit des bénéficiaires. Le Bureau du vérificateur général regrette que les tracteurs ont été cédés aux bénéficiaires à un prix inférieur à celui prévu par la convention de financement pour un montant total de 309 929 171 francs CFA. Il relève également le non-paiement ou le paiement partiel des tracteurs par des bénéficiaires pour un montant total de 17 175 034 francs. Le Bureau du vérificateur général rassure que les faits ont été transmis au président de la section des comptes de la Cour suprême et au procureur de la République chargé du pôle national économique et financier.
Ces irrégularités financières constituent un manque à gagner pour le monde paysan et même pour le développement du pays. C'est en tout cas ce que pense le président de l'association de lutte contre la corruption et la délinquance financière Madou Niaré. Il invite les autorités à sévir contre les auteurs de ces malversations. Il est joint au téléphone par Mariam Koulibaly.
Nous pensons que les faits sont avérés puisque c'est une vérification qui est faite de façon, en tout cas, très scientifique. Un détournement de 300 milliards de francs CFA, c'est en tout cas, ça a des conséquences très désastreuses sur, en tout cas, le développement du monde rural au Mali. Le monde rural, l'agriculture, l'agro-pastorale. 300 milliards de pertes, vraiment, c'est très désastreux dans ce secteur-là. C'est une lutte qu'il nous faut mener. Il faut que tout un chacun s'engage parce que c'est une grande perte pour l'État.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le forum autour de la problématique de la retraite au Mali s'est ouvert hier à Bamako. Au cours de deux jours de rencontre, les retraités, les responsables des caisses d'assurance et les autorités vont échanger sur les acquis et perspectives de la retraite. De l'indépendance à nos jours, la pension des retraités est valorisée d'année en année, selon les autorités de la transition. Dramane Maïga était au lancement du forum.
Le gouvernement a consenti des efforts énormes pour que les retraités vivent mieux au Mali, a déclaré Choguel Kokala Meïga, Premier ministre.
Des efforts d'augmentation des pensions à hauteur de 20%, soit 5% par année en 2015, 2019, 2020 et 2021. Les montants de majoration consécutive aux différentes revalorisations des pensions est passé de 1,7 milliard en 2015 à 10,48 milliards en 8 ans.
Des efforts reconnus par la Fédération nationale des associations des retraités du Mali, FENAR. Cependant, ses responsables soulignent tout de même certaines difficultés. Seydou Monzon Traoré, président de la FENAR.
Des interrogations à l'allure des frustrations ont surgi chez une frange très significative des retraités des fonctions publiques aussitôt après l'adoption de la loi 053 du 11 juillet 2018 portant code des pensions. En d'autres termes, les avantages prévus dans le nouveau code des pensions ne concernent nullement les pensionnés ayant fait valoir leurs droits à la retraite avant janvier 2019.
Le Premier ministre a aussi indiqué que de 2015 à 2023, le régime des pensions connaît un déficit de plus de 500 milliards de francs CFA. Selon lui, les services de cotisation au titre du régime des pensions ne couvrent plus les charges du régime.
Reportage signé Draman Maïga. Autre sujet à présent, l'armée malienne assure mener ses opérations dans le respect des droits de l'homme. Elle affirme toutefois combattre tous les groupes terroristes qui se dresseront sur son chemin dans le cadre de la reconquête du territoire. Le patron de la direction de l'information et des relations publiques de l'armée était devant la presse hier jeudi 2 novembre. Écoutons le colonel Souleymane Dembélé, directeur général de la DIRPA.
Les forces armées maliennes sont dans la dynamique de leur mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire, mais aussi de la sécurisation des personnes et des biens. Les FAMA sont des forces professionnelles et respectueuses des droits humains, mais aussi du droit international humanitaire. À cet effet, elles ne sauraient en aucun cas porter atteinte à l'intégrité physique d'un citoyen malien. Les FAMA, dans leur mission de défense et de sauvegarde de l'intégrité du territoire du Mali, ne saurait tolérer que n'importe quel individu ou n'importe quel groupe terroriste lui empêche d'assumer sa mission régalienne, la mission qui lui a été confiée par le peuple malien.
Place à présent au dossier de la rédaction. Le Monde a célébré le 31 octobre dernier la Journée mondiale des villes. Cette journée a pour objectif d'instaurer un cadre d'échange avec les acteurs de l'urbanisme sur les défis qui pèsent sur les villes au Mali. Elle intervient alors que des citoyens se demandent si les villes maliennes méritent tout ce statut. Qu'est-ce qu'une ville? Comment le statut de ville s'acquiert-il? Quels sont les défis auxquels font face les villes maliennes? Réponse dans ce dossier réalisé par Fadi Talfi Maïga.
Dans les villes de Kayes, Ségou et Sikasso, nous avons demandé à des habitants leur appréciation sur ces différentes villes. Si beaucoup pensent que leur cité mérite le statut de ville, d'autres déplorent l'insalubrité dans ces villes.
Kayes a le statut d'une grande ville.
La ville de Ségou, elle répond bien le statut d'une ville parce que tout ce dont une ville en a, Ségou en a sur tous les plans.
Moi, je pense que Ségou, c'est une ville paisible, mais qui a besoin d'assainissement.
Sikasso est une grande ville, donc qui est très riche économiquement.
Dans la capitale malienne, le constat est tout autre. Selon des habitants de Bamako, la ville ne répond pas aux normes d'une ville en termes d'infrastructure.
Bamako ne répond pas beaucoup aux critères de la ville hein, parce que c'est une ville qui est quasiment polluée, très sale.
En termes d'éclairage, en termes de tout ce qui se passe, Bamako ressemble à un gros village, pas la ville.
Sur un plan infrastructurel, par exemple, bon, nous sommes en retard par rapport à pas mal d'autres capitales, ça c'est sûr.
Pour beaucoup de Maliens, l'insalubrité est un défi auquel sont confrontées les villes du Mali. Elles constituent d'ailleurs une menace sur leur statut de ville, disent-ils. Pourtant, des environnementalistes affirment que le statut de ville n'a rien à voir avec le niveau d'insalubrité. Abdramane Sanogo, environnementaliste.
Le statut de ville se gagne ou se perd en fonction du nombre de la population, pas de l'état d'insalubrité ou de l'état de la propriété d'une ville. Si c'était cela, beaucoup de grandes villes du monde allaient perdre leur statut de ville.
En République du Mali, une ville se définit comme une cité qui compte moins de 5000 habitants, nous dit Drissa Koulibaly, conseiller technique au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population. Selon lui, les défis des villes maliennes sont liés à l'urbanisation.
On assiste à un étalement aujourd'hui. Ça fait appel à d'autres services sociaux de base pour satisfaire cette population qui est dans la périphérie de nos agglomérations. Aujourd'hui, c'est le projet de résilience urbaine de Bamako. Et demain, on attend d'autres projets de résilience au niveau des villes secondaires afin d'améliorer les cadres de vie de la population, avoir un développement harmonieux de nos cités.
À l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale des villes, les responsables de l'urbanisme appellent les populations au civisme.
Pour réécouter ce journal, appelez gratuitement sur Viamo 37 321. Vous pouvez également retrouver toutes nos productions sur l'application Studio Tamani téléchargeable sur Play Store. J'ai eu le plaisir de présenter cette édition tout de suite après moi, Issata Diarra Sirala, pour les infos en Bamanankan. Merci à toutes et à tous. Excellente fin de semaine. Les violences conjugales sont une forme de mauvais traitement à l'endroit des enfants dès lors qu'ils entendent ou assistent à des scènes de violence. Force est de constater aujourd'hui au Mali l'augmentation des cas de violences basées sur le genre, notamment les violences subies par les femmes au foyer. Selon des spécialistes, ces actes de violence commencent souvent bien avant la naissance de l'enfant. Ainsi, l'impact de ces violences est perceptible sur celui-ci depuis le bas âge. Mais il précise que tous les enfants ne sont pas affectés de la même manière, avec la même intensité. Les détails dans ce magazine « Tous les enfants du Mali » réalisé et présenté par Mamadou Samassikou avec le concours de nos correspondants.
En plus de Bamako, des citoyens se sont prononcés sur ces violences conjugales à Tombouctou, Bankass et Yélimani.
Quand les parents se disputent, l'enfant est là, l'enfant est petit, mais l'enfant n'oublie jamais. Étant à l'école, étant ailleurs, même dans la rue, on remarque que l'enfant a des problèmes réels à la maison.
Si c'est un jeune garçon, il va grandir avec l'idée qu'une femme est toujours quelque chose qu'on doit traiter mal. Si c'est une petite fille, ça va lui donner même le dégoût pour le mariage.
Ça joue surtout sur le rendement même scolaire de l'enfant. J'étais une brillante élève, mais quand les problèmes ont commencé entre mes parents, je ne pensais qu'à ça, jusqu'à ce que l'école m'a confié à un prêtre.
Ces différents propos sont soutenus par le psychologue Mamadou Nientaou. Selon lui, ces violences peuvent bien avoir de terribles conséquences sur l'enfant.
Quand vraiment les violences sont récurrentes de forte intensité, et l'enfant peut avoir tous les syndromes de l'état de stress post-traumatique, c'est-à-dire des troubles au niveau de l'alimentation, des troubles au niveau du sommeil, des troubles d'hyper-réveil, de la concentration. Tout cela va modifier son comportement, sa conduite, ce qui peut être préjudiciable pour l'épanouissement de l'enfant.
Le sociologue Tchéfin Sissoko propose la sensibilisation pour une prise de conscience de l'impact négatif de ces violences conjugales sur les enfants.
Cette augmentation est liée sans doute aux états de pauvreté en fait ambiante et aussi au fait qu'on est entouré par des états de violence. Donc du coup, il peut avoir des répercussions importantes pour l'éducation des enfants. Quand les enfants s'expriment sur le sujet devant des tantes, des oncles et autres, on répond systématiquement qu'ils ne doivent pas se préoccuper de ce qui se passe pour leurs parents. Donc je pense qu'il faut une bonne campagne de sensibilisation.
Au Mali, les conséquences des violences conjugales sur les enfants sont bien prises en compte par la loi. Selon des juristes, de nombreux textes y sont consacrés. La nouvelle constitution, dans son article 3, prévoit la protection de l'enfant. Ce qui est une innovation selon Mamadou Lassine Diarra, secrétaire à l'organisation de la COMAD, Coalition malienne pour les droits de l'enfant.
Effectivement, les sanctions sont prévues, notamment dans le code de protection de l'enfant, dans le code des personnes de la famille, dans le code pénal. Il y a des textes qui sont non contraignants, mais d'autres qui sont très contraignantes. Contraignantes en ce sens que c'est des mesures, des peines, ça inflige des sanctions qui peuvent être pécuniaires, qui peuvent aller au retrait de la garde de l'enfant. Dans certains cas, ça peut même aboutir à des peines d'emprisonnement.
Comme mesure préventive, le psychologue conseille entre autres d'expliquer tous les contours du mariage aux jeunes avant qu'ils ne s'engagent dans le projet de mariage. Mamadou Nientaou.
Qu'on puisse conduire les personnes suspectées de commettre ces violences-là devant les autorités pour prévenir même les cas d'homicide qui sont très fréquents dans nos communautés depuis quelques temps. C'est un peu également de sensibiliser les parents que lorsqu'il y a certaines altercations de mettre les enfants à l'abri, quand la famille constate qu'il y a une certaine violence qui règne dans le couple, c'est dès éloigner cet enfant-là dans une autre famille, il est temps de trouver la solution au problème.
Par ailleurs, le fait que certains enfants se renferment sur eux-mêmes et ont du mal à s'exprimer, les spécialistes préconisent des thérapies comme le sport et les loisirs.